Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre dans quelques instants Bruno Donnet pour son rendez-vous quotidien Télescopage. On est vendredi, c'est l'heure du bilan de la semaine avec Bruno Donnet. Notre invité, l'humoriste Bérangère Krief pour son spectacle Amour, ne vous fiez pas au titre. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray pour la story de Lebray. Bonjour Charlotte Langrand.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe.
Et Bruno Donnet que je salue. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous avez les yeux rivés sur le travail des médias, mais le vendredi, vous nous en résumez les temps forts. Et ce matin, votre récap de la semaine est librement inspiré de Jean-Paul Belmondo.
Eh oui Philippe, exercice de style ce matin, car vous allez l'entendre, cette semaine, toute l'actualité pouvait allègrement être mise en perspective à l'aune de sa filmographie. Et tout a commencé dimanche dans le 20h de France 2 avec le retour médiatique du magnifique.
Bonsoir Arnaud Montebourg.
Bonsoir Laurent.
Merci d'être avec nous.
Arnaud Montebourg, on le croyait sagement rangé à la ruche, mais on a découvert qu'il entendait de nouveau se piquer de politique.
J'observe que toutes les idées que j'ai défendues pendant 20 ans sont devenues majoritaires, elles sont le centre de gravité du pays.
Piqué très sérieusement même, car il a visiblement beaucoup enflé du cigare au point qu'on lui aurait bien envoyé le magnifique, le vrai.
Ça va peut-être vous faire sourire. Mais quand je vois une abeille, pardon.
Seulement voilà, attendez, pardonnez-moi.
Qu'est-ce que je disais ?
Vous parlez d'abeille.
Ah oui, c'est ça. Seulement voilà, disais-je, c'eût été dommage, car pour mieux faire le buzz, notre abeille s'exprime désormais dans une nouvelle langue, le maya.
La remontada de la France, en 5 ans, 2022-2027, remonter ensemble la France, nous le pouvons.
Voilà, bon alors pour la France tout entière, on ne sait pas encore si ça peut fonctionner, mais... En foot, ça a très bien marché.
Benzema. Oh oui.
Griezmann. Oui. Oh, l'extérieur somptueux de délicatesse.
Mardi, en battant la Finlande 2-0 devant les caméras de TF1, l'équipe de France a remontadé ses chances de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Bon, sinon, le titre d'As des As aura été très âprement disputé cette semaine, mais je dois bien vous avouer, Philippe, qu'un petit sujet aperçu dans le 19-20 de France 3 a mis la barre assez haute. Il avait pourtant parfaitement bien commencé.
Le train bientôt gratuit pour les policiers, à la condition qu'ils soient armés.
Mais il est venu se fracasser sur une seconde partie d'information dont le côté concordant m'a laissé douter de la santé mentale du guignolo qui a bien pu imaginer un timing pareil.
Financé par le ministère de l'Intérieur, la mesure est annoncée au moment même où le gouvernement réfléchit à remettre en cause les avantages de transport des agents SNCF. Et de leur famille.
Un champion. Voilà, alors pour ça, il y a un extrait parfait dans l'As des As, justement, à condition toutefois d'accepter qu'il ne soit pas tout à fait grammaticalement correct.
Si je vous dis « con, vous avez l'air », c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
À Marseille, France 3, Provence a voulu prendre des nouvelles. Du marginal, le professeur Raoult était invité à répondre à une question sur la vaccination. Seulement voilà, l'intervieweur a eu le malheur de l'asticoter et de l'interrompre et leur échange a tourné court.
Votre conseil,
que
votre
je conseil vous me laissez parler et répondre, oui ou non?
Je vous laisse parler, professeur Raoult.
Ah, oh, mais ça suffit. Ben alors, non, mais c'est infernal, on s'arrête. Allez, c'est infernal, ça suffit.
Allez, avant de moi-même m'arrêter, Philippe, il faut tout de même que je vous dise que Kaboul a tristement revisité Peur sur la ville. Car, comme a pu l'observer France 2 hier soir,
les talibans sont partout en ville, avec des armes de guerre.
Dans la capitale afghane, les nerfs des femmes et des journalistes ont été mis à très rude épreuve. BFM TV a relaté des tirs nourris.
Les talibans tirent de longues salves de coups de feu pour disperser les manifestants. Nous devons nous replier en urgence.
Tandis que sur le canal 27 de France Info, l'excellent Michel Montpontet montrait les photos insoutenables de deux journalistes afghans arrêtés et torturés pour avoir tout simplement filmé une manifestation.
Les images sont dures à voir, mais il faut les voir parce que c'est grâce à eux et à leur corps meurtri que l'on peut savoir ce que c'est que vivre sous le joug des talibans.
Enfin, impossible, Philippe, de terminer sans évoquer ici l'hommage national rendu hier à Jean-Paul Belmondo et retransmis sur de très nombreux canaux.
Belmondo, c'est un peu nous, en mieux.
Car l'image de la semaine, la séquence la plus émouvante, restera incontestablement celle du cercueil de Jean-Paul Belmondo, recouvert du drapeau bleu-blanc-rouge et quittant la cour des Invalides, sur la musique du professionnel. Car oui, hier, à Paris, sur ses notes, s'est joué un très joli film, pleure sur la villa.
Joli. Merci Bruno Donnet. Belle chronique, belle semaine. À lundi, Nicolas Caro.
Ah, il est fort,
il est fort hein, Bruno Donnet. Votre indispensable du jour n'est pas moins fort.
Je vous parle d'un roman qui était dans la première sélection du Goncourt qui a été dévoilé cette semaine. Donc voyez un peu la réactivité. Ça s'appelle Soleil amer de Lilia Hassen.
Voilà, et j'imagine que le roman, il est fort. Charlotte Langrand, votre indispensable.
Je vais vous poser la délicate question du frigo commun et de la cuisine commune quand on se met en couple avec l'histoire d'une chef omnivore qui est tombée amoureuse d'un vegan.
Ça fait penser au film Ce qui reste du jambon d'Anne de Pétrini, qui racontait l'histoire du frigo occupé par deux personnes qui n'étaient pas toujours d'accord sur tout. Dans un instant, c'est l'humoriste Bérangère Krief avec nous à parler de son spectacle Amour. Mais d'abord, musique, c'est Ses phases sur Europe 1. A tout de suite.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.
La France met des coups de fatigue. Des coups de blues au bout des doigts. D'abord c'est simple, puis ça se complique. Comme des tas d'histoires qui n'avancent pas. Si rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde de fou, j'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu pars. Je reste ici. Toi tu pars et moi je reste ici, ici, ici. Quand on prend trop de faux départs. On voit pas la ligne arriver. Partir trop tôt, c'est déjà trop tard. Et on finit disqualifié. Si rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde fou, j'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu pars. Toi tu pars, moi je reste ici, ici, ici. Toi tu pars, moi je reste ici. Toi tu pars, moi je reste ici. Si, si, si.
Toi, tu pars. Tiens, cette circonstance, c'était Ses phases sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Bérangère Krief.
Bonjour Philippe.
Vous êtes humoriste, comédienne, le grand public, vous avez découvert dans Bref avec Yann Cogendy sa série sur Canal+, on vous a vu au cinéma dans le film Adopte un veuf avec Dussolier, plus d'un million d'entrées, ou dans le dernier film de Marie-Lou Berry, Quand on crie au loup. Mais votre premier métier, c'est la scène. Et là, vous remontez, le Covid est passé, le confinement est passé, avec votre deuxième seule en scène qui s'appelle et qui s'appelait et qui s'appelle toujours Amour. C'est au Théâtre de Paris, du mercredi au samedi à 17h, vous venez de démarrer, et le dimanche à 15h sera jusqu'au 24 octobre, et je rassure tous les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller à Paris, il y aura une tournée en France qui va courir de novembre jusqu'à mars 2022, donc impossible de vous rater. C'est quoi l'idée de ce spectacle? Déjà,
Le thème, on croit le connaître, c'est l'amour, mais c'est aussi le largage, la désillusion. Toi, tu pars, c'était s'efface sur Europe 1, cette circonstance.
C'est vrai que mon sujet un peu de prédilection, ça va être la rupture, parce que je suis partie d'une grosse rupture que j'ai vécue. J'étais fiancée, j'avais commencé à organiser notre mariage, etc. Et puis je me suis fait larguer un peu comme une merde.
Ça voilà. Me fait rire.
C'est pas très marrant.
Je ris parce que vous êtes drôle, pardon.
Mais en fait, j'étais dans un processus où je devais me marier avec quelqu'un jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et tout s'arrête et je me retrouve au carrefour de la vie. Et je me dis, quelle direction prendre ? Et depuis, j'ai bon, évidemment remonté la pente, je rassure tout le monde. Mais j'ai trouvé que c'était tellement intéressant. Si j'avais pas vécu cette rupture, j'aurais pas compris énormément de choses sur moi. Donc mon propos, c'est surtout de qu'est-ce qu'on peut faire de cette rupture, qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif.
Alors justement, d'abord, on fait rire plutôt avec les choses négatives. Comment vous avez réagi après ce largage ? Vous étiez vraiment, comme vous dites, au fond du gouffre, ou vous en rajoutez pour faire rire ?
Non, j'étais. Enfin, je pense que dans ma vie, ça a été rarement aussi sombre. J'avais l'impression que j'avais plus de bras, plus de jambes, que je savais plus quoi faire. Vraiment, j'étais. Parce que j'avais toujours tout misé sur l'amour. C'est-à-dire que mon phare, c'était le mec avec qui je suis. Et du coup, là, s'il s'en va, je sais pas qui je suis surtout. Donc, du coup, ça m'a amenée à un stage de développement personnel en Ardèche, dont je parle dans le spectacle. Ça m'a amenée à me poser des questions sur moi, à me dire, OK, en fait, là, s'il y a une prochaine tempête, on va pas s'écrouler on va pas tomber comme une feuille. Donc, de me renforcer. Et cette introspection, en fait, m'a amenée vers aussi l'amour de soi, qui a été quelque chose dont on parle beaucoup, mais que comment on fait ? Personne ne nous apprend ça.
On va entendre un extrait du spectacle. Là, vous avez un peu repris pied. On parle de stalkage. Stalker, c'est observer, espionner sur les réseaux sociaux ce que font les gens, et en l'occurrence, l'ex. Comment ça se passe après la rupture ?
Est-ce qu'on peut juste parler deux secondes de l'enfer, de quand tu postes une story, juste pour que lui la voie ? Après, tu passes ta journée à scroller comme une débile, hein, pour voir s'il a vu ce mini court-métrage fraîchement réalisé par tes soins, où tu essaies de faire croire que t'as jamais été aussi heureuse de toute ta vie. Ah, l'enfer du réseau social qui peut te faire chialer, hein, parce que donc il a pas vu ta story. Ou pire, il en a posté une que t'as prise en plein cœur, de lui à l'anniversaire de son pote, avec donc lui, ses potes, et trois nanas non identifiées. En deux secondes, tu te transformes en Élise, tu sais. Pour un cash investigation spécial rupture. Les ex, qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Et surtout, qui sont ces trois putes ?
Voilà, je précise, le son est un petit peu approximatif parce que c'est une captation, mais on voulait vraiment donner une image du spectacle. Et je dois préciser qu'il y a des extraits qu'on voulait passer, les gens riaient tellement qu'on ne pouvait pas les passer comme ça. Mais c'était quand même qu'on imagine ce que ça donne. Ça, vous l'avez vécu.
Oui, surtout, je trouve que à l'heure des réseaux sociaux et tout, quitter quelqu'un, d'habitude, tu quittes quelqu'un, tu ne le vois plus, tu n'as pas de nouvelles, et c'est... Un besoin pour la relation, pour soi-même, je pense que c'est important de couper. Et là, on a accès à tout de l'autre et c'est horrible.
Mais attendez, je vais rien spoiler, vous inquiétez pas, mais c'était un gars connu en plus.
Qui ?
Ah ! Votre ex.
Je sais pas. Je sais pas.
Moi, je sais que c'est un gars connu, je vais pas donner son nom, mais donc c'est encore plus douloureux.
Ah bah oui, parce que là, on a des nouvelles. S'il a une actualité, on a des nouvelles. Hein.
Voilà. Et vous êtes redevenus copains ou pas ?
Oui, on est très amis. Et je suis très heureuse de ça parce que aussi...
Ça aussi, ça fait partie de la thérapie.
Ça fait vraiment partie de la thérapie parce qu'à un moment, j'étais très en colère. Hein, j'ai mis un peu de temps, on ne fait pas ça en deux secondes. J'étais hyper en colère, mais le travail sur moi, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi les choses arrivent, finalement, de prendre un peu la responsabilité, de me dire, je me suis retrouvée dans cette situation parce que je suis aussi responsable de certaines choses. Et du coup... Le travail de pardon de moi-même, mon pardon à moi, et lui pardonner à lui, ça a été une source de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est très amis, on est hyper heureux d'avoir surpassé cette rupture. Et ça fait beaucoup de bien parce que je dis toujours, en fait, c'est comme si tu marchais toujours avec une valise de colère, donc pleine de merde, et que en fait, c'est un peu lourd à porter tous les jours, quoi.
Très, très belle image, très poétique. Il est 10h17. C'est Bérangère Krièvre, notre invitée. Qui était-elle avant la célébrité ? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie. Ça arrive tout de suite. On marque une pause. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Bérangère Krief, Amour, c'est son nouveau spectacle qui était l'ancien mais qui revient et on en est absolument ravis. C'est à Paris pendant 2 mois et ensuite en tournée dans toute la France jusqu'en mars. Je vous présente Lisa Marie Marquez, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Lisa Marie, vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité, un portrait inédit, le portrait de l'invité, une célébrité donc, avant sa célébrité.
Et oui, bonjour Bérangère Krief. Vous êtes humoriste et comédienne, vous avez été nommée au Molière de l'humour en 2020. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bérangère, vous êtes née à Lyon et vous avez grandi à Saint-Cyr au Mont-d'Or, entourée de votre petit frère et de vos parents. Mmh. Une enfance joyeuse et familiale, ponctuée de rituels comme les vacances en Espagne l'été, en écoutant sur le trajet, dans la voiture, les canulars de Jean-Yves Lafesse et la chanteuse préférée de votre maman, France Gall.
C'est vrai.
À l'école, vous êtes une bonne élève. En classe de CE2, votre meilleur ami vous propose de tester un atelier de théâtre, un cours porte ouverte. Vous vous y rendez, il y a une scène et une grande malle pleine de costumes et la magie opère. Vous suivez les cours de Madame Pralu, la prof de théâtre qui décèle votre potentiel comique et vous fait jouer une petite grand-mère sur scène alors que vous avez seulement 8 ans. C'est vrai ?
Oui, non, je suis un peu plus vieille, j'ai 14 ans, mais c'est surtout qu'on monte une pièce dramatique qui s'appelle La maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca.
Ah oui, non.
Donc c'est pas drôle du tout.
C'est pas rien.
Et à la lecture, quand on a fait les tests, moi j'ai lu avec toute ma sincérité et elle m'a dit non, laisse Bérangère, on va te trouver autre chose. Ouais. Et j'ai fait la grand-mère folle qui parle à un mouton. Donc oui, je me souviens très bien de ce moment où tout le monde a rigolé alors que vraiment, moi, j'avais pas de projet de faire rire.
Bérangère, très jeune, vous développez un vrai talent d'observation et d'imitation. Un jour, vous allez voir un spectacle avec un aigle et son dresseur. Dès que vous rentrez à la maison, vous vous mettez à refaire le spectacle déguisé en faisant les bruits de l'aigle et en mimant les gestes du dresseur. Alors comment on imite un aigle ?
Mais non, mais on avait été voir un spectacle de rapaces avec mes cousins et tout. Et j'avais rien dit. Puis quand je suis rentrée le soir, le mec était habillé un peu en tyrolien. Il avait des grandes chaussettes blanches et il agitait avec son gant en daim de la viande pour le rapace. Et je m'étais mis en haut de l'escalier. J'avais appelé tout le monde, mes parents et mon frère. Et je dis hey! Et j'avais fait le truc. Il avait dû faire un bruit ou quoi. Ouais. Avec des grandes chaussettes blanches. Donc ils avaient tous rigolé.
Génial.
Vous imitez aussi Rabbi Jacob, Eli Kaku et surtout Les Inconnus en playback avec votre petit frère.
Je suis avec mon petit frère en autant. C'est trop mignon.
Ça, c'est vous et votre petit frère.
Un matin, il y a ma cousine qui avait dormi chez nous. Et je sais pas, on a une heure de film de mon frère et moi en playback ou en chanson sur tout l'album des Inconnus à l'époque qu'on passait en boucle.
Wow.
On connaissait tout par cœur. Et donc mon petit frère, vous avez dû avoir quelqu'un de ma famille parce que là c'est le document.
Non, c'était les RG.
Le document officiel. Et cette vidéo, elle est énorme. Moi j'ai 8 ans, je suis horrible, je le dirige, je le pousse, il vient, il. Bon. Et voilà, mais on avait beaucoup rigolé.
À l'âge de 14 ans, au mariage de votre cousin, vous jouez toute seule le spectacle d'Elysée Moon, que vous connaissez par cœur devant 50 personnes, devant les 50 invités. C'est un peu votre premier seul en scène.
Attends, pourquoi vous avez dit oh putain, vous prenant la tête dans les mains?
Parce que ce jour-là, j'ai 14-15 ans, les gens dans ma famille savent que je fais du théâtre. C'est le lendemain du mariage, donc on est là, on est dans des tables en U, et je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui dit Bérangère, un spectacle, Bérangère. Effectivement, moi, dans ma vie, je faisais tout le temps les sketchs de Elysée Moon.
Ça sent le gars qui a pas dessoulé.
Et donc, et ils m'appellent tous. Et donc, je cède à la pression familiale, mais je me retrouve au milieu de ces tables en U à faire le sketch à moitié parce que je suis hyper stressée et les gens rigolent et je me dis ils sont gentils quoi mais et j'étais là oui madame Peach je sais pas quoi toute seule je faisais mon sketch mais c'était horrible mais je oui je me souviens très bien.
Bérangère, vous passez un bac littéraire, puis vous faites un DUG art et spectacle avant de quitter Lyon pour vous installer à Paris. Vous vous inscrivez à l'école d'art dramatique d'Oscar Sisto, le prof de théâtre de la Starac, et vous poursuivez votre formation à l'école du One Man Show. Vous débutez dans plusieurs pièces de théâtre, comme le spectacle pour enfants La Princesse et le Petit Pois dans la Tête, mais aussi dans Les Colocataires ou encore dans la pièce Nationale 666 de Lillian Lloyd. D'ailleurs, pour cette pièce-là, vous partez en camping-car à Nice avec Johan Chabot, votre ami et futur metteur en scène. Écoutez, il raconte cette folle aventure.
Je sais que c'est un des plus beaux souvenirs de sa carrière à Bérangère. C'était une aventure extraordinaire. On a stationné sur un parking. On a ri. Je crois qu'on a ri, mais tous les jours on riait. Et puis elle avait le même costume que Lara Fabian dans un de ses concerts en 2000. Même combinaison, même coiffure. Et puis je voulais vous dire aussi que Bérangère, je l'aime plus que tout.
Oh mon yo-yo. Ah ouais, non mais ça c'est vrai que des fois on imagine, je dis souvent beaucoup ça aux gens qui attendent que la notoriété arrive pour valider leur carrière. Moi j'ai un souvenir, je veux dire, on est parti, on avait monté cette pièce de briques et de broc, on jouait à Nice, on était parti, je sais pas pourquoi, on avait décidé de partir en camping-car avec le camping-car des parents de Delphine, et on avait traversé la France jusqu'à Nice, on était sur le parking de la fac. Et on a ri, effectivement, tous les jours, Yo-Yo le dit très bien. Et c'est des souvenirs, on allait à la piscine pour se doucher. Parce que et dès qu'on allait chez des amis, Johan avait vécu à Nice, donc dès qu'on allait manger chez des amis à lui, on venait avec notre douche, notre serviette et notre Tahiti douche. Ouais. Et on a hyper ri. Et c'est
et
vrai
vous
que...
imaginez quoi à ce moment-là? Vous imaginez mais devenir moi, une comédienne connue ou vous amuser comme ça et continuer vos études ou vous posiez même pas cette question?
Moi, c'était pas un but en soi, moi, d'être connue. C'était évidemment quand on est connue. On est reconnu et les gens viennent remplissent la salle et il y a un engouement qui se fait. Donc c'est ça qui est agréable. Mais moi, je jouais à ce moment-là surtout.
Et puis un jour, vous jouez votre premier spectacle, Ma mère, mon chat et Dr House, au théâtre Le Bout. Et puis en 2011, votre copain Kian Kojandi, rencontré dans une pizzeria café-théâtre, vous propose le rôle de Marla, le plan cul régulier du héros d'une série qu'il est en train d'écrire et qui s'appelle Bref. Bref, la suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci.
Merci beaucoup,
c'est trop bien.
Et vous avez vraiment déjà joué pour une pizza ou pas?
Ouais.
Ouais, voilà.
Tous les jeudis soirs pendant 2 ans. Donc
voilà.
Allez, la 4 fromages.
Le régime alimentaire. On va parler de gastronomie tout à l'heure. On va vraiment être dans le cœur du sujet. Merci Lisa Marie.
Merci beaucoup.
Bérangère Krief reste avec nous, évidemment. Culture Média continue. Les indispensables arrivent. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Blandel.
En compagnie de Bérangère Krief, son spectacle Amour, ça vient de démarrer, c'est mercredi, il y en a jusqu'en mars et on en est absolument ravis. Vous aimez cuisiner?
Alors, trop pas. Non.
L'enchaînement est bien trouvé. Bonjour Charlotte Langrand.
Bonjour Philippe.
Avec vous, on parle de gastronomie, vous parlez également d'amour, de cuisine pour le meilleur et parfois pour le pire.
Oui, Bérangère, j'ai entendu dans l'une de vos interviews dans laquelle vous disiez qu'auparavant, vous vous oubliez vous-même un petit peu dans vos relations amoureuses, vous vous mettiez la pression. Le soir avant de dormir, par exemple, vous maquilliez ou alors vous demandiez à votre ex ce qu'il voulait manger le soir alors que vous n'aimez justement donc pas trop faire la cuisine, à part peut-être votre gâteau au yaourt ou votre banana bread,
voilà,
c'est ça?
C'est ça, c'est voilà. Mes deux tubes, c'est ouais. Deux choses que je peux faire un peu facilement.
C'est ça.
Et que je réussis plutôt bien, donc voilà.
Donc la vraie question, c'est une vraie question, cette question du frigo commun quand on se met en couple, parce que non, donc tout le monde n'a pas les mêmes goûts, tout le monde n'aime pas forcément faire la cuisine au quotidien, et pourtant tout le monde doit bien faire à manger à un moment donné. Donc la question est, si l'on n'aime pas, si l'on n'a pas l'amour de la cuisine, est-ce qu'on peut faire une cuisine de l'amour? Je vous avais 4 heures, je ramasse les copies. Hein.
Okay,
on doit rendre l'antenne à 11 heures, donc comment on résout cette équation?
On peut prendre l'exemple sur l'histoire de la cuisinière Trish de Seine. Alors elle, c'est son job, elle adore cuisiner, elle écrit des livres de recettes, c'est une réelle omnivore, mais l'année dernière, elle est tombée amoureuse d'un homme qui ne mange ni viande, ni laitage. Donc, quand ils ont emménagé ensemble pendant le confinement, voilà que pour la première fois de sa vie de chef, elle s'est retrouvée perplexe devant ses propres fourneaux, partagée entre son nouvel amour et son amour de l'escalope de veau à la crème. Donc, Trish a quand même décidé de tester la vie sans Paris-Brest et sans steak tartare. Elle a donc passé des heures, des semaines à revoir sa façon de faire les courses, sa façon de cuisiner, et elle en a fait un livre de recettes très appétissant qui sort à la fin du mois. Et il est très loin des discours clivants, vous savez, habituels entre végétaliens moralisateurs et viandeurs
viandard moqueur. Ça s'appelle, non sans humour, la bonne cuisine veggie et vegan d'une omnivore réticente mais amoureuse.
Génial.
Bon alors, à quoi ressemble les génial? Attends, on ne sait pas. À quoi ressemblent les recettes?
Alors, on y trouve...
Mais c'est une femme amoureuse qui te parle,
c'est
j'adore.
C'est ça. Alors, on y trouve des saucisses veggie, des boulettes à base de lentilles, avec beaucoup d'oignons, des épices, du cumin, de la coriandre, du carvi, un bourguignon de champignons avec du thym, de l'ail, du vin rouge, parce que le monsieur boit de l'alcool peut-être quand même, un parmentier de légumes avec une béchamel avec de l'huile d'olive à la place du beurre, des beignets de courgettes, un banana bread pour vous, Bérangère. En fait, comme c'est une bonne vivante, elle n'a pas cherché à remplacer, vous savez, le fromage ou la viande par des espèces de substituts faits dans des laboratoires qui sont souvent pas très réussis. Les recettes, elles sont très gourmandes et surtout, elles rendent service à tous les cuisiniers qui doivent maintenant s'adapter de plus en plus souvent au régime particulier, vous savez, les sans gluten, les sans œufs, les sans lactose, parce que c'est ainsi, pour notre planète quand même, il faut revoir un peu notre façon de cuisiner et de consommer les produits carnés. Et il faut aussi dire et redire que la cuisine végétarienne, maintenant, c'est plus une cuisine comme avant, punitive ou sans relief. Maintenant, les chefs se sont penchés dessus et elle vaut vraiment le détour.
Trish de Zen, elle est française, elle est quoi?
Elle est d'origine irlandaise.
Elle vit en France. Est-ce qu'elle est devenue végane elle-même, alors, du coup, avec cette expérience?
Alors, je vous rassure, sa découverte amoureuse de la cuisine végane ne ressemble pas à la scène de Podane où Catherine Deneuve prépare son cake d'amour pour son prince dans sa robe couleur de soleil. Trish de Zen ne s'est pas transformée en femme des années 50, comme vous disiez dans cette même interview Bérangère. Elle ne se plie pas en quatre au fourneau pour son mari. Ici, ce sont les années 2020, donc elle ne manque pas d'humour. Elle essaye, en fait, de convaincre le lecteur de la gourmandise de ses recettes, comme elle s'est convaincue elle-même en les faisant. Et puis surtout, donc, elle n'oublie pas ses propres goûts. Elle ne s'oublie pas dans sa relation à l'autre. Elle a fini, donc, par réintégrer le vrai fromage et le beurre dans son frigo pour se faire parfois quelques petits plaisirs en solitaire.
Et la viande ?
La viande aussi, elle se fait un petit plaisir. Voilà. Oui, bien sûr, de temps en temps. Elle n'est pas pour autant devenue végane comme
pourquoi
lui.
Pourquoi c'est pas le garçon qui s'adapte
hein. Mais évidemment, il peut peut-être aussi changer ses recettes.
C'est intéressant, d'aller visiter le régime alimentaire de l'autre et
apparemment,
tout.
Apparemment,
elle aime faire à manger, donc
elle c'est son job.
Voilà. Et lui, si t'aimes pas faire à manger et qu'en plus tu dois faire à manger et t'adapter au régime alimentaire de l'autre, là, ça fait un peu beaucoup.
Ouais. Et apparemment, lui, c'est vraiment un rejet viscéral de tout ça. Donc voilà.
On clôt le chapitre. On ferme le frigo. Culture Média continue. Dernière ligne droite. Bérangère Krief avec nous. Marc-Antoine Lebray va arriver. À tout de suite. You've been holding back heart attacks every night. Oh, you know. Follow You, vous avez reconnu Imagine Dragons sur Europe 1. Dans un instant, Marc-Antoine Lebray pour ses stories, toujours en compagnie de Bérangère Krief. C'est la dernière partie de Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Bérangère Krief, c'est son deuxième seul en scène qui revient. Il s'appelle Amour. C'est au Théâtre de Paris du mercredi au samedi à 20h. Ça se joue en ce moment. Vous allez jouer ce soir. Vous avez changé beaucoup de choses dans le texte après le Covid, la pandémie. Vous avez réactualisé ou pas trop?
Oui, j'ai un peu réactualisé, mais très peu en fait. Après l'amour, c'était, j'avais déjà bien abordé le sujet.
Ouais.
Et non, je suis contente d'avoir replongé dans le texte. Je me dis, oh, bah, il est bien ce spectacle.
Ouais.
Bah, je suis contente de le jouer.
Vous l'aviez en tête? Vous avez dû vous y répéter?
Bah, en fait, j'avais peur d'avoir oublié le texte. J'avais pas joué presque depuis un an. Je l'ai pas joué non plus des milliards de fois. Mais je crois que il s'est rangé avec les paroles de Larousseau et l'album de Doc Gynéco. Des trucs que j'avais dans mon enfant. Ces textes que tu as imprimés et qui sont tatoués en toi. Tu sais, ouais, pas où c'est. Mais mon texte actuellement est dans cet endroit.
Pourquoi ça vous fascine à ce point? Les histoires d'amour, le débrief, les histoires de rupture.
Mais j'ai la sensation que c'est comme ça que je connais mieux les gens. On est là, on parle tous de taf, ouais, ça va, ça bosse pas mal. Mais quand quelqu'un arrive et dit, bah là, je viens de me faire larguer, t'as pas le même rapport. Mmh. Et moi, j'ai l'impression de rentrer en contact avec les gens. Et surtout, j'ai cette faculté de moi-même raconter mes propres histoires assez facilement.
Je veux dire pourquoi je souris. Parce que l'exemple que vous donnez, c'est je viens de me faire larguer. Vous auriez pu choisir, je viens de rencontrer quelqu'un.
Ouais.
Pourquoi ça vous fascine à ce point, la séparation? Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est Nicolas Carreau qui a dit, ouais, ça va tellement loin, cette histoire de rupture, qu'elle a même monté, Bérangère Krief, un podcast en 26 épisodes avec une amie. Phoenix, sur la rupture et le largage.
Ouais, c'est vrai que je suis assez fascinée par le processus. C'est des étapes, en fait, où c'est comme si tu casses tout et tu dois reconstruire. Mais c'est les phases de deuil, hein, les sept étapes du deuil. Mais oui, bon, ça me fascine parce que je trouve qu'après, on peut faire des trucs géniaux.
Des enfants, par exemple?
Oui. Enfin, je pensais pas à ça, mais...
Ben moi, j'y pensais parce que, autre actu qui vous concerne, ah, Tétard, mini-série sur Canal+, avec Esteban, oui, racontez l'idée.
C'est un couple qui apprend qu'il va avoir un enfant, ils sont un peu jeunes, un peu cool, un peu pas prévus. Donc, il y a la première saison, c'est toute la grossesse et ses aléas. Et la deuxième saison, on a l'enfant et c'est tous les aléas de cette arrivée. Et en fait, les réalisateurs ont en fait détourné ce sujet de la maternité qu'on connaît beaucoup par des visites dans des genres cinématographiques. Je ne sais pas, ouais, si je m'exprime bien, mais en fait, on va visiter un genre, le film catastrophe américain, quand on apprend qu'on va avoir un enfant. Il y a des films d'horreur. En fait, et du coup, c'était super agréable en tant que comédienne de jouer dans cette série, parce que j'ai joué dans plein de genres que je n'avais jamais visités, les séries Z, il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait bien marrer.
Un exemple, l'enfant est né, et la vie avec vos potes, parce que vous étiez plutôt des fêtards, oui, couple jeune, comme on, ouais, dit, bah, il n'y a plus de vie avec les potes, ils ne vous appellent plus, ils ne vous invitent plus.
On sort plus depuis des mois, on parle que de caca de bébé, on est devenu hyper chiant en fait. On a que ce qu'on mérite et nos potes nous ont remplacés, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais non, mais n'importe quoi, on est des parents trop stylés, nous.
Ben, t'as acheté 12 sièges auto alors qu'on a qu'un seul bébé et même pas de permis de conduire.
Oui, ben quand on l'aura, on sera bien content d'avoir fait une étude comparative au préalable. Bon, mais je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais rien, on peut rien faire, c'est la loi du plus fort en fait. On n'est plus dans le game, voilà, hein? On sera peut-être des nouveaux amis à la crèche parentale.
Ça vous donne envie d'avoir des bébés?
Oui, non, j'ai envie au fond de moi. Il y a quelqu'un qui a très envie d'avoir des enfants. Chaque fois, je me dis, bon, je sais pas, je le mettrai où aujourd'hui.
Ouais.
Mais bon, voilà, je laisse les choses se faire, quoi. Mais c'est pas là.
Il y aura une saison 3 ou pas?
Je sais pas, je pense pas. Pour l'instant, c'est pas d'actualité.
Ouais. Marc-Antoine? Ah, ben voilà, c'est l'heure des stories de Lebray. Oh, et ce matin, on retrouve Micheline. Oh non, l'entrée, c'est pas possible.
Oh,
il est en pyjama avec des cœurs.
Bonjour. Et bienvenue sur le répondeur de l'amour, avec un grand A. Vous connaissez le principe, vous laissez un message d'amour et je le guifugue. C'est par qui?
Écoutez. Bonjour Bérangère, c'est Jerejoire. Bon, c'est Gust pour te dire qu'à Vouvray, on t'aime beaucoup. Et on t'aime d'ailleurs autant avec une salle pleine de public qu'avec une chambre pleine de feuilles étalées par terre. Environ 4 kilos de notes sur 23 mètres carrés. Mais qu'est-ce qui en a fait un spectacle de tout ça? Eh ben, c'est l'amour. Alors bravo, c'est génial. Et puis vraiment, on voulait... Ah, pardon, faut que j'y aille.
Marquis, Grégoire, pour la commission un peu d'humour dans ce monde de brut, on écoute un autre mécage.
Bonjour, c'est Nicolas. Bonjour. J'ai une petite anecdote sur Béranger. Nous étions à la fac ensemble et le premier jour de la rentrée, Béranger est venu accompagné de sa mère. Oui, à la fac, accompagné de sa mère. Un peu comme Micheline, la peur de la solitude peut-être. Voilà, et Merki.
Ah, elle a de la chance, Béranger, d'avoir autant d'amis et en quelque sorte d'amour. Et Merki, Nicolas, de rappeler que je suis seule avec ma chatte. Ah, encore un mécage.
Bonjour à toi, Béranger Krief. Te souviens-tu de moi ? C'était il y a 3 ans. Je me prénomine Micheline et je suis toujours célibataire en Turquie en recherche d'amitié. Tout d'abord, félicitations pour ton spectacle et bonne chance pour sa reprise. Et bonjour à toi, Marc-Antoine. Je te prierai de cesser d'imiter mes parents car tu le fais très mal. Un gros bisou à toi. Mon Philippe.
Oh, c'est très gentil. Il faut dire qu'ils étaient intelligents. C'est vos vrais copains. Alors, c'était Elise et Moon, moi j'ai reconnu sa voix.
Elise et Moon, que j'embrasse très fort.
Grégoire
Day, auteur avec moi sur le spectacle.
Et le Nicolas, moi je sais pas qui
c'est. Nicolas Vital, c'est mon meilleur ami, mais c'est également le directeur artistique du spectacle. C'est, en fait, avec Nico, on se connaît depuis très longtemps. Et en gros, moi j'ai plein d'idées. Et Nico, il les range, voilà. Et il m'aide à ranger.
Et la tenue de Marc-Antoine, c'est il l'a piqué dans votre placard.
Oui,
c'est énormissime. On peut pas voir tout, on peut le voir à la vidéo, mais il est comme ça. Il a même le bas qui est pareil. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, Béranger Krief, le seul en scène Amour au Théâtre de Paris du mercredi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. Ce sera jusqu'au 24 octobre et puis une tournée dans toute la France jusqu'en mars 2022. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média avec le journaliste sportif et animateur de l'équipe du soir, Olivier Ménard. Et puis la romancière Cécile Coulon pour son roman Seul en sa demeure aux allures, je vais arriver à le dire, de thriller historique. Juste après le flash, c'est Julien Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Bonjour mesdemoiselles, le programme du jour.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va vous parler de comment trouver un appartement en location. Vous savez que c'est le parcours du combattant. On va vous aider à monter le meilleur dossier possible.
Et on parlera aussi un petit peu de nos jambes, de la santé de nos jambes, avoir des belles jambes sans problème veineux, sans varices. On va tout vous expliquer avec le docteur Toledano. À tout de suite.
Les locations, les varices, quel programme. Merci Julia, Mélanie. Nous, on se retrouve lundi à 9h. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.